Loïc Tassé, spécialiste des questions internationales. Alors, on continue d'abord avec le feuilleton de l'affaire Khashoggi.
Ça finit plus. Bonjour Bernard.
Bonjour Loïc.
C'est un feuilleton qui ne finit plus. Et demain, on attend les ultimes révélations de M. Erdogan, le président turc, qui a convoqué une conférence de presse et qui promet de tout déballer.
On n'a toujours pas trouvé le corps, là, soit dit en passant. Et les Saoudiens qui ont finalement reconnu que Khashoggi était décédé pendant un interrogatoire au sein du consulat.
Il y aurait une bataille, c'est sa dernière version. Imagine un homme qui a 60 ans, qui est un peu obèse, puis tu sais, qui aurait...
OK, mais mettons qu'il y a une bagarre, mettons. Ben, on leur donne le bénéfice du doute.
Tu leur donnes
non, mais c'est parce qu'une fois qu'il est tombé mort, découpé en morceaux...
Oui.
Ils ont fait quoi là avec les morceaux?
Ils les ont donnés, semble-t-il, disent-ils dans la dernière version, à des gens avec qui ils travaillent en Turquie. Puis on n'en sait pas plus, on ne sait pas où ils sont.
Il aurait donné à un entrepreneur de pompes funèbres local.
C'est cherché dans on le cherche dans la forêt. Mais c'est pas ça qui est drôle. Le gouvernement turc a sorti une vidéo qui est très amusant, qui est sur CNN entre autres. Figure-toi que 2 heures avant que Khashoggi rentre dans l'ambassade turque, ils ont fait venir, parmi ce groupe de 15 meurtriers, ils ont fait venir un sosie de Khashoggi. Et ce sosie de Khashoggi est rentré donc 2 heures dans le consulat avant Khashoggi. Et alors que Khashoggi, malheureusement, se faisait découper en morceaux, ce sosie est ressorti du consulat, mais habillé avec les mêmes vêtements que Khashoggi. Tout pareil, sauf les chaussures qui n'étaient pas les mêmes. Et il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Khashoggi, mais on sait que ce n'est pas Khashoggi.
Fait qu'on s'entend que ce coup-là était planifié.
Mais c'est ça que ça veut dire. Alors, il s'est rendu dans un endroit touristique, mais les caméras le filment, il est avec un acolyte. Il rentre dans les toilettes de cet endroit touristique, il se change, il enlève les vêtements de Khashoggi, il remet ses propres vêtements, et ensuite, les deux compères vont jeter ça dans les ordures, vont jeter aux ordures les vêtements de Khashoggi. Et tout ça, on le voit, c'est filmé, et ils rentrent à leur hôtel ensuite.
Les services secrets saoudiens, là, ils sont pas mal de pays. Hein?
Pas mal.
On s'entend que ça fait un peu... ça pourrait faire un épisode de La Panthère Rose.
Attends, mais je t'ai pas tout dit.
Ah non?
Ça, c'est le vidéo.
Oui.
Ils en ont donné encore plus. Figure-toi que l'homme de main du prince qui semble avoir organisé tout ça, qui était à Istanbul, dans le consulat, il a téléphoné 4 fois au directeur de cabinet du prince Mohammed cette journée-là, dont une fois du bureau même du consul où a eu lieu l'assassinat.
Ah oui, puis le prince, évidemment, Salman, il n'a rien à voir avec l'assassinat. C'est-tu assez ridicule?
Ben écoute,
ils nous prennent vraiment pour des imbéciles.
Pour des imbéciles. Alors donc, écoute, il y a quand même des gens qui commencent à réagir dans la communauté internationale, et ça, c'est important. L'Allemagne a demandé aux pays européens de cesser d'exporter des armes à l'Arabie saoudite, sauf que c'est pas elle qui exporte le plus d'armes à l'Arabie saoudite, c'est la France et la Grande-Bretagne qui sont restés un peu silencieux là-dessus. Mais et les lobbies de l'armement sont très, très puissants, je suis pas sûr que ça se fasse. Mais vraiment, l'étau se resserre donc autour du prince Mohammed. Et plus les jours passent, plus les gens sont indignés dans le monde et voient ce régime pour ce qu'il est, c'est-à-dire un régime qui est dirigé par des assassins. Je suis désolé de le dire aussi franchement.
Non, je ne sois pas désolé, parlons un petit peu de cette caravane d'immigrants donc du Guatemala qui doivent traverser le Mexique pour se rendre aux États-Unis, puisque c'est bel et bien leur destination, n'est-ce pas?
Oui, c'est une colonne de milliers de personnes, en fait, qui est passée par le Salvador, le Honduras, qui s'est rendue donc au Mexique. Ils sont en ce moment, ils campent en ce moment à Mexico dans les places publiques, et le gouvernement Trump leur a dit au gouvernement mexicain, écoutez, si vous laissez passer ces gens-là au Mexique, si vous ne les retournez pas, moi, je vais fermer la frontière américaine avec le Mexique. Je vais envoyer l'armée américaine à la frontière du Mexique. Les Mexicains ont beaucoup réagi là-dessus. Ils ont essayé d'empêcher cette colonne de rentrer au Mexique. Ça n'a pas fonctionné. Ils sont maintenant, comme je te disais, à Mexico, mais il semble qu'ils essaient d'en retourner dans leur pays. Depuis 48 heures, il y en a 3400 qui ont été retournés dans leur pays.
Par les autorités mexicaines?
En fait, ce sont des Honduriens, parce qu'il y a pas... ça a commencé avec des Guatémaltèques, ensuite des Honduriens, des Salvadoriens. Tout le monde s'est joint à cette colonne. Et donc, elle a plusieurs milliers de personnes, mais quand même, ils en ont retourné plus de 3000 depuis 48 heures, les Mexicains. On attend de voir ce qui va arriver. Le problème, c'est que le prochain président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lui, il est d'accord avec ce mouvement de cette colonne et il dit quand vous serez au Mexique, enfin, si vous arrivez au Mexique, si vous pouvez rester, moi, je vais vous donner un permis de travail. Lui arrive au pouvoir officiellement en décembre. C'est le président élu, mais il n'est pas encore au pouvoir. Ouais. Et donc, ça donne espoir à tous ces migrants. Mais tu vois le conflit énorme qui est en train de surgir entre les États-Unis et le Mexique.
Mais c'est clair.
Avec ce président qui dit, mais si moi je vais accueillir tous ces migrants, je vais leur donner des permis de travail. Après, ce qu'ils en feront, s'ils veulent aller vers la frontière américaine, c'est pas de mes affaires.
Et par ailleurs, le président américain qui dit, moi je vais les accueillir avec l'armée. Écoute, il va faire quoi? Il va les arrêter puis les retourner à López Obrador?
Je sais pas ce que l'armée va faire, mais l'armée, ça a des fusils. Je ne sais pas comment il va fermer la frontière mexicaine non plus. Est-ce qu'il va la fermer complètement? Est-ce qu'il va y avoir des rondes de l'armée? Je ne sais pas. Mais on s'en va vers une aggravation donc de ce conflit avec les migrants.
Lequel Mexique, évidemment, a signé une nouvelle entente pour un nouvel ALENA qui doit être ratifié d'ici le 1er décembre.
C'est
pour
ça.
Signature
avec les anciens dirigeants du Mexique, parce qu'on ne veut pas que les nouveaux dirigeants du Mexique se penchent là-dessus, parce qu'aux États-Unis, on craint qu'ils refusent ce nouvel ALENA.
Alors, Paulo, dans un instant, va nous parler de cette possible nouvelle course aux armements ou enfin de ce possible nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Mais tu souhaites mettre la table?
Je veux simplement te dire que oui, tu sais, c'est un traité qui a été signé entre Gorbatchev et Reagan en 1987. Paulo va t'en parler. Mais cette guerre froide, à mon avis, c'est pas tant à l'égard de la Russie, c'est la Chine qui est vraiment visé par ça. Parce que les missiles de courte portée, les missiles intermédiaires, c'est pas contre la Russie que les États-Unis veulent les déployer, c'est contre la Chine. Et ce traité les empêche de faire ça en ce moment.
Ils veulent les déployer où, les Américains?
Corée du Sud, ils veulent les déployer dans des pays où ils ont des bases américaines.
Par exemple, au Japon, éventuellement?
Au Japon, éventuellement, ça pourrait être un endroit où ils pourraient déployer ça. C'est là où ça se passe. Et au sein même de la Maison-Blanche, il y a vraiment deux écoles de pensée. Il y en a une qui est autour de Navarov, qui est un économiste, qui veut vraiment une guerre froide, dure avec la Chine, est à l'autre école, qui est autour, l'autre clan, qui est autour de Trump, qui dit, en fait, moi, ce que je veux avec la Chine, c'est simplement réduire peut-être de moitié le déficit commercial avec la Chine. Je serais très content si, au lieu d'avoir 375 milliards de dollars de déficit, on a juste, mettons, 200 milliards de déficit. C'est ça qu'il veut. Mais tu as ces deux groupes à l'intérieur de la Maison-Blanche qui poussent fort chacun de leur côté. On ne sait pas qui va gagner, mais c'est très clair en ce moment que des gens comme Bolton, comme Navarro, veulent une nouvelle guerre froide. Et ce ne sera pas avec la Russie,
ça va être
avec la Chine.
Loïc Tansé, merci.
C'est un plaisir.
Paul Oud va prendre le relais dans un instant. Restez avec nous.